Nous sommes à mi-chemin ce soir de ce parcours du plagiat, pastiche et contrefaçon dans les nouveaux chemins de la connaissance. Lundi dernier, nous recevions l'universitaire Hélène Morel-Indard qui traquait sous le plagiat et malgré lui les conditions de l'originalité véritable. Hier, c'était l'écrivain Michel Schneider qui évoquait pour nous l'impossibilité de ne pas être un plagiaire et ce soir, dans la même veine, mais avec un style différent, c'est l'écrivain Jean-Luc Hennig, l'écrivain et grammairien Jean-Luc Hennig, qui nous propose une apologie du plagiat, un livre peut-être indûment signé de son nom chez Gallimard dans la collection de l'Infini. Bonsoir Jean-Luc Hennig.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Culture, studio 168 de la maison de Radio France, où vous revenez, je crois, avec plaisir. Vous y étiez il y a quelques années, n'est-ce pas ?
Il y a 30 ans, oui. Il y a 30 ans avec Jacques Duchâteau, dans les rendez-vous de midi, je faisais des chroniques régulièrement avec Laure Adler, avec d'autres. Effectivement, c'est un pèlerinage.
C'est un pèlerinage et on ne se refait pas, n'est-ce pas, comme
on dit. On se refait pas. Donc.
Alors, première question, Jean-Luc Hennig. Hein, vous signez c'était un livre que vous avez écrit il y a 10 ans maintenant, une apologie du plagiat chez Gallimard. Première question, êtes-vous l'auteur du livre que vous avez signé ? Est-ce qu'on peut le dire ?
Oui, complètement. Le plagiat n'est pas une contrefaçon. C'est l'objet du livre. L'objet du livre est de bien distinguer entre le plagiat comme principe esthétique et la contrefaçon, qui est un phénomène de librairie. C'est quelque chose qui remonte en fait à l'âge classique, c'est-à-dire au XVIIe par exemple, puisque c'est au XVIIIe que Diderot et Beaumarchais ont lutté pour...
J'irai sur le droit d'auteur.
La reconnaissance des droits d'auteur et que ça a été effectivement... mise en place à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, en même temps, et ça c'est évidemment capital, en même temps que se mettait en place l'idée d'originalité, c'est-à-dire les romantiques. Les romantiques sont évidemment en plein dans cette situation du plagiat comme faute, comme infamie, comme etc.
Mais en même temps, les romantiques sont les copistes de leurs émotions.
Oui, ils sont surtout les copistes, comme Musset, des lettres de George Sand. Ils sont les copistes de beaucoup de choses.
Oui, là, vous pensez à On ne badine pas avec l'amour, où Musset
aussi
est prêt à perdicant des paroles qui étaient celles de George Sand.
Voilà, c'est ça. Et puis, Musset a, vous savez, Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, ou encore Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre, et en fait, il piquait partout. Pareil pour Nerval, et pareil pour Stendhal.
Musset disait ceci, hein, « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » C'est Georges Sand, en réalité, qui le dit.
Voilà, alors, il reçoit des lettres intimes, des lettres amoureuses, et il les prend pour en faire une œuvre. Voilà. Et je ne vais pas lui jeter la pierre, parce que c'est ça la distinction. Au XVIIIe et au XVIIe, on appelait « contrefaçon », en fait, des livres qu'on reproduisait, des livres qui avaient reçu un privilège du garde des Sceaux, évidemment, et qui étaient imprimés soit à Lyon, à Grenoble, ou bien en Hollande, à Amsterdam, à Leyde, etc. Donc ça, c'est la contrefaçon. C'est un phénomène de librairie. Et puis le plagiat qui est un phénomène esthétique. On ne peut pas, vous me posiez la question de savoir si Apologie du plagiat est un livre de moi, et effectivement c'est un livre de moi.
En vérité, la question que je vous pose, bien, par-delà l'anecdote si vous voulez, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut rédiger une apologie du plagiat sans détruire la notion même d'auteur ? Ce qui peut-être est un bien d'ailleurs, c'est pas un jugement.
C'est complètement faux, on ne plagie pas.
Ça n'est qu'une question, elle n'est ni vraie ni fausse, c'est la réponse.
Il y avait un genre littéraire qui s'appelait le santon. Le santon est une espèce de contrainte qui a été employée en particulier par Ozone au 5e siècle, mais par plein d'autres. Le santon, Loulipo a fait des santons, etc. Donc le santon, c'est une contrainte qui vise à ce que tout soit plagié. Tout, c'est-à-dire vers après vers, rien n'échappe. Or, le plagiat, ce n'est pas du tout ça. Le plagiat, c'est un phénomène de vol capillaire, de vol par instant, de vol par moment, de vol on ne sait pas pourquoi ni comment.
Un vol capricieux.
Un vol capricieux. Oui. Un vol qui vient parce qu'on en a besoin. Parce que Kristeva avait une formule extrêmement... Julia Kristeva avait une formule extrêmement... Elle parlait de shifter métaphorique, c'est-à-dire d'embrayeur d'images. Ce qu'on vole, en général, ce sont des images. Ce sont des phrases avec des images. On ne vole pas n'importe quoi. On vole une image. On vole bien sûr une phrase bien coupée, comme disait Coco Chanel, parce qu'on a beaucoup plagié Coco Chanel, et Coco Chanel s'en moquait éperdument. Et on volait quoi dans Coco Chanel ? On volait une robe bien coupée. On vole des phrases bien coupées. On vole quelque chose qui est avant tout une image qu'on n'avait pas trouvée. Et elle est un embrayeur d'autre chose. C'est-à-dire que on passe à autre chose. Elle propulse. Elle est, comment pourrait-on dire, un été, un voussoir, comme dirait Montaigne, quelque chose qui vous entraîne ailleurs.
Vous écrivez, vous, dans l'introduction, j'ai toujours écrit chacun de mes livres dans l'ombre portée d'un autre.
Hein. Oui, tous.
Tous. On vous l'a même reproché, d'ailleurs. Vous avez eu un procès pour plagiat à un moment.
Alors, non, j'ai jamais eu de procès.
Il n'y a pas eu de procès ?
Non. Ah. Non, mais j'ai payé.
Mais vous avez payé, c'est-à-dire, vous avez payé pour ne pas avoir de procès ?
Oui, en général, c'est ce qu'on fait, oui.
Alors, mais racontez-nous comment ça s'est passé.
Je vais vous raconter très simplement cette histoire. J'ai sorti Apologie du plagiat donc en 97, et c'était l'année précédente. L'année précédente, je sortais deux livres, un livre chez Gallimard à nouveau, qui s'appelait « Bi », sur la bisexualité masculine, et puis un autre petit livre chez Zulma qui s'appelait « L'horoscope cruel ». Qui était une sorte de description de chacun des signes, de portrait de chacun des signes du zodiaque, de chacun des signes astrologiques plus exactement. Et c'était un portrait par les défauts du signe, un portrait cruel. Donc c'était assez méchant. Et j'avais pris évidemment dans beaucoup d'ouvrages, parce que moi, je ne suis pas astrologue. J'avais pris dans beaucoup d'ouvrages, et en particulier dans un livre qui s'appelait « Tristesse de la balance ».
De Jacques Bertrand.
Voilà. Et j'avais pris une phrase par signe, oui. Évidemment.
Vous ne l'aviez pas mis entre guillemets ?
Non, bien sûr que non, mais je ne mets jamais les choses entre guillemets.
Mais pourquoi bien sûr que non, Jean-Luc Hennig ?
Je vais vous dire...
Qu'est-ce qui vous empêchait de le mettre entre guillemets ?
Je vais vous lire une phrase de Roland Jacquard.
Allez-y,
Roland Jacquard.
Allez-y, on a toujours raison de lire des phrases de Roland Jacquard, allez-y.
Roland Jacquard est celui qui a publié le livre de cet invité que vous avez reçu lundi.
Hélène Morel-Indard.
Chez au PUF. Et Roland Jacquard m'écrit, ce n'est que lorsque nous écrivons est de nous, ce n'est que lorsque ce que nous écrivons est de nous que nous devrions le mettre entre guillemets. Merci, etc. Eh bien voilà, je n'ai pas évidemment mis entre guillemets, tout simplement.
Il y a beaucoup de guillemets dans votre bouquin, votre horoscope cruel.
Non, il n'y a pas du tout de guillemets.
Non, rien n'est de vous.
Non, Sade non plus ne mettait pas de guillemets. Mm-hmm. Et Sade piquait, et on s'en est pas rendu compte.
Tout le monde piquait, c'est ce qu'on découvre en lisant votre apologie
évidemment.
Du plagiat.
Hein.
C'est une anthologie de la pompe. Tout le monde volait.
Tout le monde a piqué, tout simplement, parce que c'est ça, la création littéraire. C'est ça, le processus de création littéraire. C'est que la littérature naît de la littérature. Elle ne naît pas de la vie. Elle naît du langage. Et donc, c'est une tradition que tout le monde, même les romantiques, avec l'inspiration, avec l'originalité, etc., etc. C'est une tradition, évidemment, de l'Antiquité grecque et romaine, mais une tradition que je ferai remonter à Montaigne.
Bien sûr, mais alors, attends, on va aller au fond de ça, parce qu'on est au fond des choses, là, tout de suite, évidemment. La littérature naît de la littérature.
Et la littérature est passage.
On est d'accord.
Essentiellement passage.
On est d'accord, mais je voudrais vous demander ceci. La littérature naît de la littérature, très bien, mais il y a deux façons de s'inspirer de quelqu'un. La première, c'est une imitation servile. On en a parlé avec Michel Schneider et Hélène Morel-Indard. Une imitation servile qui consiste à reproduire in extenso un texte précédent. Calix de Yala, prenant vraiment à la lettre des extraits du livre d'Howard Buten, « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué », ne fait pas de la littérature, non, mais... puisque son livre n'en est pas manifestement. En revanche, elle s'inspire d'un authentique roman. La littérature, en l'occurrence, ne naît pas de la littérature. C'est de la non-littérature qui naît de la littérature. En revanche, quand Montaigne, dont vous parlez, reprend Aristote et son fameux « parce que c'était lui, parce que c'était moi » sur l'amitié, la pensée engendre la pensée, féconde la pensée. Donc il y a quand même plusieurs façons de plagier.
L'originalité ne vient pas avant. Elle ne vient pas du fait qu'on a plagié ou pas. Elle vient après. L'originalité d'un livre, c'est son résultat. Je ne sais pas si Calixte Belaya fait de la littérature. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais lu Calixte Belaya. Ce que je sais, c'est qu'il y a une tradition très marquée en France pour une revendication de cette littérature née de la littérature, en France et ailleurs. Elle naît de Montaigne et elle va jusqu'à aujourd'hui. Quignard, par exemple. Louis-René Desforêts.
Oui, le bavard, tout à l'heure. Oui.
Le bavard et les mendiants sont des plagiats absolus. Mm-hmm. Pas des centons, des plagiats absolus. Benjamin Constant, Léris, Dostoïevski, Kafka, Hemingway, Faulkner, Kleist, Aragon, Breton.
Arrêtons là la liste, on pourrait dire tout le monde.
Louis-René, alors, si tout le monde plagie, votre théorie ne marche plus.
Pas du tout.
Parce qu'il
n'y
a
dis...
pas les bons...
Il y a deux façons de plagier.
Il y a peut-être, en effet...
Non, on fait un livre avec des graines, éventuellement, qui fructifient différemment.
Le plagiat... C'est un plagiat physique. Le plagiat, c'est sa nature, c'est de prendre des phrases ou des passages intégralement. C'est ça le plagiat. Le plagiat psychique, je ne sais pas ce que c'est. Mais le plagiat physique, c'est ça.
On ne s'intéressera pas cette semaine à la question du plagiat psychique, qui, somme toute, n'est pas très intéressante.
Mais le plagiat physique, c'est ça. C'est on prend textuellement des phrases. Donc, si je remonte... je vois qu'en effet, il y a Louis-René Desforêts, il y a Pérec, Valéry, il y a etc. etc. On peut remonter comme ça, Flaubert,
Voltaire,
Lautréamont, etc. Piqué énormément. Diderot, Voltaire, Sade était un grand piqueur dans l'éternel. Montaigne, effectivement, Montaigne. Donc ça, c'est... il est fondateur de ça parce que on était dans une culture gréco-romaine, une culture gréco-romaine pour qui le plagiat était naturel. Naturel.
Oui, mais Montaigne est à l'origine d'un geste. Reprenons cet exemple parce que je le prends à dessein puisque vous le prenez vous-même comme exemple dans votre apologie du plagiat. Montaigne, donc, dans son fameux chapitre sur l'amitié, son tombeau de la Boétie, je resitue le contexte pour nos auditeurs, son tombeau de la Boétie, son chapitre sur l'amitié, qui est peut-être le plus beau des essais, a cette fameuse phrase, n'est-ce pas ? Parce que c'était lui,
oui.
Parce que c'était moi.
C'est
attendez.
Pas tout à fait cette phrase.
C'est une phrase qui... Bon, il fait un emprunt,
oui.
À cette occasion, à la théorie aristotélicienne de la philia, oui, qu'on retrouve dans l'éthique à Nicomaque, et il développe d'ailleurs une théorie de l'amitié qui... à bien des égards, pas à tous, les nuances sont subtiles, mais à bien des égards, ressemble quand même à s'y méprendre à la théorie aristotélicienne de l'amitié. Néanmoins,
oui.
Si Montaigne a éprouvé le besoin d'écrire ce chapitre sur l'amitié, c'est parce que la Boétie était mort. Les motifs qui ont inspiré ce chapitre ne sont pas les motifs qui ont fait qu'Aristote, écrivant à son fils l'Éthique à Nicomaque, parle de l'amitié. C'est différent, le contexte est différent, le propos est différent, son ampleur est différente, tout est différent.
Non, mais le problème, ce n'est pas qu'il dise... Il le dit. Il dit, voilà, moitié de mon âme, une âme en deux corps. Une âme en deux corps. Leur convenance n'étant qu'une âme en deux corps, selon la très propre définition d'Aristote. Il avait pris ça chez Diogène Laërce. Or, on se rend compte, et c'est Hector Bianchiotti qui l'a révélé il y a très peu de temps, on se rend compte que c'est une phrase qui est tirée exactement de saint Augustin. Saint Augustin, alors, au début des confessions. Pourquoi ne dit-il pas qu'il l'a piqué, puisqu'on sait que Montaigne a lu Saint-Augustin de Reims. Pourquoi ne dit-il pas qu'il l'a prise ? C'est typiquement le cas d'une citation annoncée et d'un plagiat masqué. Alors, pourquoi ne dit-il pas qu'il a... Alors, je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas avancer le nom de Saint-Augustin ? Parce que, bon, les essais sont quand même... une sorte de manifeste un peu pyrrhonien. Donc, est-ce qu'il ne veut pas avancer le... Est-ce que c'est parce que le contexte est très fortement sexualisé, aussi bien chez Saint-Augustin que chez Montaigne, et particulièrement homosexualisé?
Et si c'était, pardonnez-moi Jean-Luc Hennig, tout simplement parce que Montaigne a, en lisant Saint-Augustin comme en lisant d'autres auteurs, a fait cette expérience qui est une expérience de lecteur, qui est qu'on retrouve dans un texte qui n'est pas le sien des paroles qui nous précèdent, qu'on a pensé avant de les lire et qui ont été écrites avant qu'on les pense.
Mais ça, je ne peux pas le savoir. Vous comprenez bien que je ne lis pas dans les âmes.
Mais oui, mais moi, c'est plus du plagiat, c'est de la réminiscence. Là. C'est autre chose.
Oui, on peut penser que toutes les affaires de plagiat sont des affaires de réminiscence,
pas
mais
toutes,
je n'y crois pas.
Mais les bonnes.
Oui. Mon intuition est que, comme c'est comme pour Virgile, quand Virgile parle de la nuit, dans l'Énéide, il cite textuellement les argonautiques d'un auteur dont j'ai oublié le nom, pourtant Dieu sait que je l'ai lu. Et pourquoi va-t-il chercher les argonautiques ? Pourquoi a-t-il besoin ? Est-ce que c'est uniquement pour briller, pour faire savoir qu'au fond, il était très cultivé et que les amateurs trouveraient ? En fait, non. Je pense que c'est une question de profondeur. C'est-à-dire que dans le plagiat, on mélange deux langues. On fait trembler deux langues. Et il y a comme une espèce de beauté, de double langage.
Alors, je voudrais qu'on entende justement deux archives, ou plus exactement deux chansons entrelacées, l'une de Boris Vian et l'autre de Renaud. Et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, que vous me disiez si pour vous il s'agit ou non d'un plagiat. Écoutez ça.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Monsieur le Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux.
Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Monsieur le Président, je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux, je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs.
Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher.
Alors Jean-Luc Hennig, plagiat ici ou pas ?
Non, bien sûr que non. Évidemment que non. Pourquoi ?
Parce
que la lettre du déserteur de Boris Vian est très connue. Donc, c'est un clin d'œil. Le plagiat, c'est pas du tout ça. Le plagiat se passe dans l'ombre. Le plagiat est un vol. Quand vous allez voler quelque chose, ça vous est peut-être arrivé un jour dans votre existence, vous n'allez pas faire des clins d'œil.
Je vais surtout pas en faire une apologie. Si je vole quelque chose...
Eh bien, vous avez tort.
Mais alors,
vous avez tort,
dites-moi
parce
pourquoi.
Que, par exemple, il y a ce très beau texte de... Vous avez tort. Je ne sais pas si c'était une apologie du vol, et pourtant je pense que oui, parce qu'avec Jaizin, Burroughs avait écrit un très beau texte qui s'appelle « Les voleurs ».
Oui.
Un très beau texte, je vous dis simplement le dernier paragraphe, c'est un assez long texte. « Les mots, les couleurs, la lumière, les sons, la pierre, le bois, le bronze appartiennent à l'artiste vivant. Ils appartiennent à qui veut les utiliser ?» Pillez le Louvre, abat l'originalité, le moi servile et stérile qui emprisonne autant qu'il crée, Vive le vol, pur, éhonté, total. Nous ne sommes pas responsables. Voler tout ce qui se présente.
Burroughs dit aussi reconnaître ses plagiats, c'est avoir le courage d'être un écrivain.
Oui. C'est assez juste.
Mais ça vous arrange en l'occurrence.
Mais ça m'arrange pas. C'est malheureusement, je pense que beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui. Vous savez, c'est le mythe de l'originalité me fait penser à ces nostalgies qu'on a des poulets de grains ou des choses anciennes. Ça fait plaisir. Mais un écrivain, c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui pille la littérature. C'est quelqu'un qui vide la littérature. C'est quelqu'un qui aide dans la littérature. Pour moi, les histoires de plagiat telles qu'on les énonce encore aujourd'hui ne me choquent. Parce que, en effet, on peut énoncer son plagiat. On peut le citer. Mais très souvent, la citation est un plagiat masqué.
Mais Jean-Luc Hignon...
Les universitaires ne font que ça. Les universitaires et les journalistes. Les universitaires, parce qu'à chaque ligne qu'ils écrivent, il y a une citation. Or, cette citation, c'est évidemment un plagiat masqué. Et les journalistes, parce qu'ils ont des dossiers de presse. Alors, les leçons de morale, vraiment, ça ne m'intéresse pas. La morale à ce genre de choses, vous ne l'avez pas fait, mais en général et en règle générale, encore aujourd'hui, ce n'est pas pour rien si Gérard Genette ne considère pas le plagiat comme un principe esthétique. Le pastiche, oui, pas le plagiat.
Oui, alors il faudrait revenir sur la différence entre pastiche et plagiat. Nul n'a ici l'ambition de vous adresser une leçon de morale, et de faire d'ailleurs une leçon de morale sur ce sujet. Mais il y a quand même un point. Vous opposez l'originalité au plagiat, ou le mythe fantasmatique de l'originalité au plagiat. Mais l'originalité n'est pas contradictoire, n'est pas forcément opposée à une reprise, par exemple. On peut faire œuvre originale en s'inspirant de ce qu'on a fréquenté, de ce qu'on a lu. Et d'ailleurs, on ne fait jamais autrement quand on écrit. Mais la différence se fait à l'instant où cette inspiration prend la forme d'un sang neuf, d'une allure nouvelle, d'un rythme nouveau, d'un texte nouveau, d'une ambition nouvelle, comme c'était le cas avec Montaigne et Aristote, et comme c'est le cas avec mille et un des génies que vous avez cités, comme ça peut être aussi une façon d'affadir un propos, de l'écraser sur l'autre. Je vous donne juste un exemple, Jean-Luc Hennig. L'histoire, par exemple, d'Alain Minc et de Patrick Rudel. Patrick Rudel est un universitaire bordelais qui écrit un livre tout à fait merveilleux qui s'appelle Spinoza ou le masque de la sagesse. Malheureusement, ce livre, paru aux éditions Climat, je suis heureux de le signaler ici, est un livre très très méconnu, c'est un livre formidable et méconnu. Minc écrit un livre qui s'appelle Spinoza, un roman juif, qu'il fait paraître chez Gallimard. On recense 36 emprunts de Minc à Rudel dans son livre, et en particulier une lettre apocryphe dont il n'a pas pris soin de vérifier qu'elle était apocryphe, qui était une invention de Rudel, dans laquelle Bouvmester, un camarade de Spinoza, lui donne la recette de la confiture de rose. Lettre que Minc prend pour argent comptant. Bon, Minc a été condamné à la suite de cette histoire, mais là, on ne peut pas dire que le plagiat, en l'occurrence, c'est de la littérature qui engendre la littérature.
Non, parce qu'il s'agit malheureusement peut-être pas d'écriture. Dans le cas de Minc, il s'agit de... Bon. D'essais, mais d'essais qui ne sont pas écrits. Donc, c'est effectivement des purs faits.
C'est un livre avec des
emprunts factuels.
Dans le même ouvrage, Minc s'inspire de Méchoulan, qui est biographe de Spinoza, mais cette fois-ci, il le retravaille. La description d'Amsterdam, ce n'est pas le texte de Méchoulan, mais on sent qu'il l'a lu. Et là, c'est autre chose. Et là, c'est pas mal, d'ailleurs.
Mais vous comprenez bien qu'un tribunal ne peut pas être à même de juger... le plagiat, qui n'est d'ailleurs pas un mot juridique, puisque le mot plagiat ne figure pas dans le code pénal.
Non, mais en revanche, est-ce que vous considérez qu'on a eu raison de condamner Minc ?
Dans la mesure où... Je pense que je ne peux pas entrer dans ces considérations.
Et pourquoi ?
Parce que le plagiat est toujours le plagiat. C'est de toute façon la même chose, qu'il soit littéraire ou pas littéraire. C'est un vol, en effet. Qu'il soit stigmatisé par la presse, ça devrait suffire, parce que la presse, en général, est très très attentive à ce genre de choses. Il y a même des journaux assez délateurs.
Mais vous regrettiez il y a quelques instants qu'on stigmatise le plagiat, justement, en faisant des donneurs de leçons de ceux qui le stigmatisaient.
Non, je ne suis pas favorable à la justice en matière de plagiat.
Donc il ne fallait pas condamner Minck.
Mais une fois de plus, la presse s'en était chargée. La presse s'en était chargée, puisque le plagié a fait tout ce qu'il fallait pour en avertir tous les journaux. Donc, il y avait une censure publique qui était suffisante. Je ne crois pas que la justice soit à même de comprendre exactement ce que c'est que la littérature.
On va entendre tout de suite, justement, Patrick Redel, le plagié.
Je suis tombé, donc je ne sais plus à quelle page, il faudrait que je regarde ça, mais sur la recette de la confiture de rose. Et là, j'ai vraiment éclaté de rire. Je me suis amusé comme un petit fou, parce que voilà, tout d'un coup, ça fonctionnait comme un virus dans le texte. Et Minck recopiait une lettre absolument apocryphe, écrite par moi de la première à la dernière lettre, d'un correspondant de Spinoza à Spinoza. Bouvmester n'a jamais écrit cette lettre-là, il en a certainement écrit d'autres, de toute manière nous n'avons pas gardé ces lettres, et dans cette lettre, eh bien, à partir d'une petite indication qui venait de Spinoza lui-même dans une lettre à Bouvmester, eh bien, j'imaginais que Bouvmester lui donnait la recette d'une confiture de rose. Il n'a même pas pris la peine de vérifier dans les œuvres complètes de la Pléiade, qui est son ouvrage, paraît-il, de référence, qu'une telle lettre était bien recensée. Mais c'est pas difficile de voir qu'il y a deux lettres de Spinoza à Bouvmester et qu'il n'y a aucune lettre de Bouvmester à Spinoza.
Jean-Luc Hennig, dans votre livre, vous donnez la recette. Comment clouer le bec au plagié qui crie au viol de l'âme? Alors comment est-ce qu'on cloue le bec
à
Redel?
Il faut être très concret.
Beaucoup
d'affaires de plagiat... Ouais. Ne s'adresse pas à un auteur, mais à des auteurs. C'est-à-dire qu'il y a, comme chez... il y a comme à l'époque romantique, ce célèbre auteur là, qui a fait le comte de Monte Cristo, etc., dont j'ai oublié le nom là, Dumas, il y a des nègres. Et les affaires de nègres sont des affaires à elles seules, parce que parfois le nègre se venge, parce que parfois le nègre est celui qui va... dénoncer le plagiaire, alors que c'est lui-même en tant que nègre qui a fait le plagiat pour que le plagiaire, qu'il l'a maltraité, qu'il ne l'a pas payé, etc. Beaucoup de ces affaires de plagiat concernent des ateliers d'auteurs, c'est-à-dire que des gens très connus n'écrivent pas, n'ont pas le temps d'écrire. Vous pensez bien que, je n'en sais rien pour Alain Minck, mais vous pensez bien qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps d'écrire. Hein. Même des premiers ministres, etc., ils n'ont pas le temps d'écrire. Donc c'est leur atelier
quand un ministre va chez un éditeur et dit « il faut que j'écrive ce que je crois, trouvez-moi quelqu'un », vous le comprenez finalement.
Je ne peux pas accepter qu'on aille pour une affaire de plagiat devant la justice. Je ne peux pas l'accepter, quelles que soient les conditions. Mais la presse, qui est un troisième pouvoir, et même un quatrième...
Les deux à la fois.
La presse fait son travail en général. Et elle reconnaît ce qui est écriture et ce qui n'en est pas. Et une fois de plus, l'originalité est à la fin, pas au début.
Eh bien, grâce en soit rendue aux journalistes. Alors, Jean-Luc Hennig, merci d'être venu nous voir. C'est sur la voix de Joséphine Baker qu'on va se quitter. Parce que j'ai deux amours, mon pays et Paris, c'est une reprise d'un sonnet de Shakespeare. Two loves I have. Et c'est un plagiat qu'on lui pardonne, évidemment. Donc, merci d'être venu nous voir, Jean-Luc Hennig. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une apologie du plagiat, un pamphlet original, pour le moins, récemment reparu chez Gallimard dans la collection de l'Infini. Je signale également de vous l'existence d'un très beau livre surprenant et morbide. Une enquête sur le cadavre et ses usages, sobrement intitulée Morgue, est parue aux éditions Verticales, ça ne s'invente pas. C'était Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une émission proposée par Raphaël Antoven et construite avec Geneviève Méric, Avril Ventura et Marion Richer. À la réalisation Médiel Hadj, à la technique, aujourd'hui c'était Vincent René. Demain c'est avec l'universitaire Marie Couton que nous continuerons cette traversée du plagiat. Marie Couton, auteur d'une somme sur le plagiat au temps de la Renaissance. France Culture, il est 20h.